Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand les langues transphobes se délient. Un texte de Mathieu Carbas, paru le 1er août 2024 dans Le Devoir. Formatrice à la Fondation Émergence, un organisme à but non lucratif qui lutte contre l'homophobie et la transphobie, Olivia Baker donne chaque année une centaine de formations sur la diversité sexuelle et de genre aux entreprises ou organismes qui en font la demande, au public comme au privé. Dans la très grande majorité des cas, ce sont de bons commentaires que l'on reçoit. Les personnes apprécient que l'on soit venu, dit-elle. Mais elle constate depuis peu une libération de la parole homophobe et surtout transphobe. Elle voit aussi la défiance s'inviter de plus en plus dans les ateliers qu'elle organise. D'une durée d'une à trois heures, ces formations abordent les principaux concepts reliés à la diversité sexuelle et de genre. Qu'est-ce qu'une personne trans? Qu'est-ce que l'expression de genre? Qu'est-ce qu'une personne cisgenre? Etc. Sont aussi abordés les problèmes auxquels les personnes LGBTQ+, peuvent faire face dans le monde de l'entreprise ainsi que les bonnes pratiques pour assurer des espaces inclusifs. Chaque formation donne également l'occasion à une personne trans ayant fait sa transition en milieu de travail de témoigner de son expérience pendant une quinzaine de minutes. Reconnue dans le cadre du programme de formation continue de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, ces formations se basent sur plusieurs études et sondages. Les réactions négatives. Il y a ceux qui gardent les bras croisés pendant toute la formation et qui refusent de participer aux ateliers. Il y a clairement des gens qui ont un problème avec le contenu de la formation, explique Olivia Baker. Parfois, certaines réactions négatives qui viennent de préjugés ou de fausses croyances sont déconstruites. À la fin de la formation, habituellement, les personnes ont cheminé, affirme-t-elle. C'est d'ailleurs exactement à ça que sert ce genre d'opération de sensibilisation. Sauf que, depuis un an environ, Mme Baker constate que les réfractaires se font de plus en plus nombreux ou alors de plus en plus bruyants. En témoignent certains messages qu'elle a reçus dernièrement à l'issue de formations données. Un participant reproche ainsi à l'atelier son « fond de militantisme » et demande à ne pas parler des toilettes et des formulaires. Ce même participant affirme avoir le « sentiment qu'une minorité audible veut remuer le monde pour moins de 1% de la population ». Un autre participant reproche à l'organisme de donner une formation militante qui propage des idéologies qui ne sont pas fondées sur des faits scientifiques et demande qu'on arrête de présenter des opinions comme des faits ou comme les souhaits de toutes les personnes LGBTQ+. Un autre encore affirme avoir eu l'impression qu'on voulait lui imposer un dogme et parle de la formation comme d'un condensé d'idéologie woke. Des propos ouvertement transphobes. Au début de l'année 2024, Julien Rougerie, qui donne de la formation pour la Fondation Émergence depuis 7 ans, a été pris à partie lors d'une séance donnée dans un établissement scolaire de la grande région de Montréal. Il raconte que des professeurs remettaient ses propos en cause, posaient des questions pièges et tenaient des propos polémiques et carrément transphobes. « Je suis habitué à recevoir des propos déplacés, mais là, il disait que les personnes trans n'étaient pas valides, que les gens qui ont un ressenti de peur envers les personnes trans sont tout aussi valides. Ils sont même allés jusqu'à dire, devant une collègue trans présente dans la salle, que les femmes trans sont des hommes déguisés en femmes qui agressent les femmes dans les toilettes. Se désole celui qui compte près de 500 séances de formation à son actif. Julien Rougerie a tenté de mettre fin aux polémiques. Sauf que l'un des participants l'a suivi dans le couloir où il l'a apostrophé une nouvelle fois. On m'a dit que j'étais malhonnête, gravement incompétent et complice d'une agression au service d'une idéologie. La personne a tenu des propos insultants à mon égard, c'était très perturbant, ajoute-t-il, avouant avoir été remué par cet incident. Défiance et militance politique. Julien Rougerie dit que ce n'était pas la première fois qu'il devait faire face à des comportements hostiles au contenu de sa formation. Mais c'était la première fois que ça allait aussi loin. Ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'on était dans ce cas dans la militance politique. On sent notamment beaucoup de crispations sur la question des personnes trans, explique-t-il. Un constat que partage sa collègue Olivia Baker. Je donne des formations depuis 2020 et je dirais que je faisais face à moins de défiance au début. Récemment, la question des personnes trans a été beaucoup médiatisée, on en parle plus. Certaines paroles sont plus décomplexées, même si les gens ne veulent pas passer pour l'homophobe de service, croit-elle. Elle pointe un clivage accru de la société sur les questions liées à la diversité sexuelle et de genre. Elle regrette aussi que certaines chambres d'écho contribuent à jeter de l'huile sur le feu. Le contexte actuel est assez paradoxal. D'un côté, il y a un intérêt pour le sujet et le nombre de demandes pour des formations a explosé. De l'autre, on reçoit de plus en plus de commentaires nous accusant de faire de la propagande, explique-t-elle. On nous accuse de faire de l'endoctrinement, alors qu'on donne juste des ressources pour que les jeunes s'acceptent et acceptent les autres. Selon Olivia Baker, les récentes controverses autour des pronoms, des toilettes mixtes dans les écoles ou des approches transaffirmatives en santé donnent des munitions aux pourfendeurs de la diversité sexuelle et de genre. Il y a une sorte de backlash concernant les droits LGBTQ+, qui avait beaucoup avancé ces dernières années, dit Julien Rougerie. On a vu ça aussi avec le féminisme. Ça vient toujours avec un retour de bâton quelques années plus tard, parce que des gens se sentent menacés par ces avancées ou parce que ça crée des frustrations chez eux. L'incident dont il a été victime est certes une expérience isolée, mais c'est sûr que ça soulève des craintes, dit-il. Ça veut dire qu'il y a des personnes au sein même d'un établissement scolaire qui tiennent des propos virulents contre la diversité sexuelle et de genre. Le fléau des fausses nouvelles. L'autre défi pour les formateurs, c'est la recrudescence des fausses nouvelles à propos des questions LGBTQ+, qui compliquent leur travail de sensibilisation. Il y a chez certaines personnes l'idée qu'il y a un complot derrière les formations que l'on donne, croit Olivia Baker. Il nous est aussi parfois arrivé d'être accusés de faire de l'anti-science en niant le sexe biologique. Beaucoup de fausses informations circulent. C'est un gros défi pour nous et on le voit encore plus ces derniers temps. Par exemple, lors d'une formation, il leur est arrivé qu'un participant les questionne à propos d'enfants qui s'identifieraient à des chats et pour lesquels les écoles installeraient des litières. Une fausse nouvelle qui a circulé sur les médias sociaux au cours de la dernière année. Ces fausses nouvelles sont fabriqués pour détruire la diversité sexuelle et de genre, conclut Julien Rougerie, qui se pose des questions sur sa sécurité à l'avenir. On se demande ce qui va se passer le jour où on aura affaire à de la violence physique. C'était « Quand les langues transphobes se délient », un texte de Mathieu Carbas, paru le 1er août 2024 dans Le Devoir.
Attention, humain fragile, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 20 juillet 2024 dans la presse. Il n'aura fallu qu'une lecture de 10 minutes pour que ma vision de l'anxiété vécue par les jeunes change. Que celle-ci ne soit plus uniquement un problème de santé mentale, mais aussi une source d'inquiétude pour l'avenir. Le déclic s'est produit en lisant une lettre ouverte publiée il y a quelques jours dans le Globe and Mail par une professeure d'université. Alexandra Chimo y racontait comment l'anxiété accrue des étudiants, combinée à leur capacité déclinante à se concentrer, force les enseignants à modifier leur méthode de travail. En 2015, à l'Université de Toronto, on lui conseillait de donner des cours magistraux de 30 minutes avant de soumettre la classe à un exercice pour consolider la nouvelle matière. Ce n'était déjà pas très long. moins de 10 ans plus tard, Alexandra Chimo nous disait « Nous enseignons pendant 15 minutes avant de commencer à craindre que les étudiants se soient endormis ou aient décroché. On nous dit d'anticiper que certains étudiants se sentiront dépassés par ces micro-leçons et que nous ne devons pas nous attendre à leur présence. Ils pourraient faire l'école buissonnière, s'ennuyer ou s'éloigner, ce qu'ils font inévitablement. C'est sans compter qu'on nivelle déjà par le bas. Les profs ne doivent pas s'attendre à lire des textes sans faute. Sans doute parce que la concentration soutenue requise pour s'auto-corriger dépasse le niveau que leur cerveau nerveux peut gérer, suppose la professeure Chimo. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, son exposé ne porte aucun jugement et ne laisse transparaître ni exaspération ni regret du passé. Elle ne blâme jamais ses étudiants, pas même pour les courriels motivés par la crainte irrationnelle d'avoir zéro, courriels qui lui sont transmis jour et nuit, à elle et à son patron. L'Ontarienne nous amène plutôt à réaliser l'urgence et l'importance d'aider les étudiants anxieux à la santé mentale fragile pour notre propre bien collectif. Un jour, et il n'est pas si loin, ce sont ces jeunes qui devront composer avec les défis de plus en plus complexes de la société. Pandémie, chaleurs extrêmes, inondations, sécheresses, nombre accru de réfugiés climatiques et d'immigrants, pénurie alimentaire répétée, inégalité croissante des revenus. Ils géreront aussi nos villes où les démissions de maires se multiplient déjà, effectueront de longues interventions chirurgicales délicates, géreront le trafic aérien. Avec sagesse, Alexandra Chimo résume parfaitement l'évidence. Nous avons besoin que les étudiants apprennent à surmonter leurs difficultés. Nous avons besoin qu'ils soient capables de prendre des décisions. Nous aurons besoin qu'ils soient capables de rester calmes et concentrés, de négocier tous les changements qui sont prévus pour les 20 prochaines années. Elle ajoute, « Nous avons besoin d'eux pour comprendre comment naviguer dans tout cela et pour trouver l'espoir. » La professeure et autrice confie avoir elle-même souffert d'anxiété débilitante pendant 2 décennies avant d'aller mieux et de pouvoir conserver un emploi. Son passé lui permet d'expliquer que l'inquiétude affecte l'amygdale du cerveau. Or, cette partie névralgique du corps contrôle la productivité, le sommeil, l'apprentissage, la concentration, la capacité à rester assis, la gestion du temps, la mémoire et la prise de décision, c'est-à-dire à peu près toutes les activités nécessaires pour réussir à l'université et dans son futur emploi. C'est ici que l'on comprend comment l'anxiété et les autres problèmes de santé mentale qui fragilisent les adolescents et les étudiants doivent être pris au sérieux, surtout dans le contexte où leur prévalence ne cesse de croître. Comme le démontrent les plus récentes données qui m'ont été transmises par IQVIA, un fournisseur d'informations dans le secteur médico-pharmaceutique, la consommation d'antidépresseurs a plus que doublé depuis 5 ans parmi les femmes du Québec de 18 à 24 ans, tandis que la prise d'anxiolytiques a explosé de 85%. Les statistiques concernant les jeunes hommes sont moins spectaculaires, mais quand même troublantes. Les données sont similaires pour l'ensemble du Canada. Quant à la tendance chez les 12-17 ans, ça fait peur. Les jeunes filles, par exemple, sont 6 fois plus nombreuses à prendre des antidépresseurs qu'il y a 5 ans. Très bientôt, cette cohorte fréquentera les cégeps et les universités et fera son entrée dans le monde du travail en y apportant ses enjeux. à l'UQAM, le professeur de journalisme Jean-Hugues Roy a observé une hausse de l'anxiété chez ses étudiants depuis 15 ans. Mais ce qui le frappe surtout, ce sont leurs nouveaux comportements qui ne sont pas toujours compatibles avec la profession qu'ils apprennent. Ces étudiants, par exemple, ont de plus en plus de mal à téléphoner au monde. Pour eux, c'est invasif. Ils préfèrent texter ou envoyer des courriels. Mais je ne sais pas si c'est une manifestation d'anxiété, laisse tomber le prof. Quand la simple sonnerie d'un téléphone est perçue comme anxiogène, il me semble légitime de se questionner. Peut-être y a-t-il un début de réponse dans ce passage du texte d'Alexandra Chimo. De nombreux comportements qui ressemblent à de l'apathie, de l'impolitesse ou de la paresse sont conditionnés par l'anxiété liée au doute de soi. En 2023, j'ai consacré des semaines à la rédaction d'un dossier pour comprendre ce qui cloche avec nos enfants, sans cesse plus nombreux à avoir des troubles d'apprentissage et de comportement. Des professeurs inquiets pour l'avenir m'avaient raconté à quel point leurs élèves se sont métamorphosés rapidement dans leurs interactions, leurs émotions, leurs capacités. Une dizaine de professionnels, neuropsychologues, pédopsychiatres, médecins, psychoéducateurs, m'avaient détaillé les causes derrière le phénomène. En gros, la société a changé et les parents ont changé de multiples manières dans les deux cas. C'était terrorisant. Le moment est maintenant venu de prendre la situation au sérieux et d'entamer des changements qui favoriseront cette fois le bien des jeunes et de notre avenir collectif. C'était « Attention, humain fragile », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 20 juillet 2024 dans la presse.
Ceci n'est pas une chronique d'opinion. Un texte de Mathieu Bellil, paru le 10 juillet 2024 dans La Presse. Savez-vous ce que j'admire le plus chez l'être humain? C'est sa capacité à admettre son ignorance. Le fait qu'il puisse dire « je ne sais pas ». La force de notre espèce tient dans les questions qu'elle se pose depuis toujours. Et les questions les plus belles, les plus précieuses, sont celles qu'on ne peut pas résoudre. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi la vie et la mort, l'amour et la haine? Et pourquoi existe-t-il cette chose étrange qu'on appelle le moi, qui, en dépit de son insignifiance, s'entête à dire « je ». L'humanité a beau multiplier les progrès et les découvertes, sur ces questions fondamentales, elle n'est pas plus avancée à l'ère de l'Internet qu'elle ne l'était au temps des chasseurs-cueilleurs. Comme la Terre tourne autour du Soleil depuis plus de 4 milliards d'années, l'humanité gravite depuis toujours autour des quelques problèmes qui l'occupent sans jamais avancer ni reculer. Qu'avons-nous appris sur la mort depuis la lointaine époque de Sophocle? Et que savons-nous de plus au sujet de l'amour que Shakespeare et Louise Labbé ne savaient pas déjà? Cette étrange permanence ne devrait pas nous inquiéter, mais nous rassurer. Devant le mystère, tous les humains sont égaux. La seule chose qui distingue certains d'entre eux, c'est leur capacité à s'émerveiller devant ce qu'ils ne comprennent pas. À un animateur de radio qui lui demandait s'il croyait à l'existence de quelque chose après la mort, l'essayiste, Pierre Vadeboncœur, avait gardé le silence pendant de longues secondes, avant de répondre, sourire en coin, « Je ne sais pas, mais je suis curieux. » Il n'y a pas de plus belle réponse. Voilà sans doute en quoi l'intelligence artificielle sera toujours inférieure à l'intelligence humaine, quand bien même elle détiendrait toute la connaissance du monde. Elle ne pourra pas choisir le silence, ne pourra jamais dire « je ne sais pas ». Elle va disserter à l'infini sur n'importe quel sujet, en faisant mine de tout savoir, parce que c'est la seule chose qu'elle peut faire. Les profs savent de quoi je parle. Bien des élèves demandent à ChatGPT de rédiger des travaux à leur place, sans se douter que la machine produit un discours où il n'est pas possible de distinguer la vérité du mensonge. Le problème de l'intelligence artificielle, IA, est qu'elle se contente d'offrir les apparences de la vérité, quitte à inventer des sources et des citations, à imaginer des faits. Bref, elle excelle dans l'art de dire un peu n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en arrivent des chercheurs en éthique et technologie dans un article qui vient de paraître et dont le titre est sans équivoque. ChatGPT is bullshit. Puisque l'IA est incapable de percevoir la réalité, constatent ces chercheurs, elle se contente de faire semblant de savoir de quoi elle parle sans pouvoir juger de la valeur du résultat. Le danger tient bien sûr au fait qu'elle puisse répandre des faussetés, mais plus encore au fait qu'elle est indifférente vis-à-vis de la vérité. Quand l'IA ment, elle ne sait même pas qu'elle ment, d'où le choix du mot « bullshit » pour décrire sa logorée. La coïncidence est frappante. Alors que nous voyons apparaître des machines capables de produire de la « bullshit » à volonté, nous assistons au retour du « bullshitter en chef », qu'on me pardonne ce vilain néologisme, qui s'apprête à revenir à la tête de l'Empire américain, Donald Trump. Voilà quelqu'un qui se montre décidément incapable de se taire ou d'admettre ses insuffisances, quelqu'un qui prétend avoir toutes les réponses, quelqu'un surtout qui a produit une telle quantité de mensonges qu'on peut se demander s'il n'est pas devenu indifférent vis-à-vis de la vérité. Trump sait-il qu'il ment quand il ment? L'homme a beau être excessif et hors norme, il est aussi un symptôme d'une époque, la nôtre, où chacun est invité à exprimer sa vérité et à l'imposer aux autres, de gré ou de force, au risque de dire n'importe quoi. Depuis 20 ans, l'apparition des chaînes d'information continue et des réseaux sociaux a marqué l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler l'âge de l'opinion, qui se résume à cette devise « Je réagis, donc je suis ». Dans cette ère nouvelle, le moindre événement, le moindre problème semble exiger qu'on réponde dans la minute. Que dis-je? Dans la seconde, comme le feraient des robots conversationnels. Dans la sphère médiatique, nous assistons à l'apparition d'un nombre toujours plus grand de spécialistes de l'opinion livrés à chaud. Ces omni-commentateurs ne sont jamais à court de mots. Ils se prononcent sur tous les sujets possibles, génèrent du discours à volonté, diffusé sur toutes les plateformes imaginables. Ils sont si efficaces qu'on pourrait croire que leurs textes s'écrivent ou se parlent tout seuls, comme si la pensée fonctionnait à la manière d'un logiciel. Existe-t-il une limite au nombre d'opinions qu'un individu peut émettre au cours d'une seule journée? Je me prends parfois à rêver du jour où l'un d'eux, après avoir observé un moment de silence, osera avouer qu'il n'a pas d'avis éclairé sur la question qu'on lui a posée, qu'il aurait besoin de recul et de temps pour penser. Je sais que des gens sont payés pour fournir des réponses, y compris ceux qui, comme moi, exercent le métier de professeur. Mais il me semble que nous gagnerions beaucoup si nous consentions à laisser, de temps à autre, notre pensée respirer, si nous acceptions de renouer avec le mystère, de nous taire pour mieux écouter. Parce que si le vrai silence vient au bout des mots, comme l'écrit le poète François Cheng, les mots justes ne naissent qu'au sein du silence. C'était « Ceci n'est pas une chronique d'opinion », un texte de Mathieu Bellil, paru le 10 juillet 2024 dans La Presse.
Une ascension de 10 000 mètres à vélo pour les jeunes atteints de cancer. À chacun son Everest. Un texte de Marianne Gay, paru le 4 juillet 2024 dans le quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le triathlète Simon Dravigné se donne un deuxième défi de taille pour soutenir les jeunes atteints de cancer. Faire un Everesting à vélo. Le défi du trifluvien d'origine consiste à parcourir une distance d'un peu plus de 1000 km en pente avec 10 000 mètres de dénivelé positif, soit plus que les 8 848 mètres de hauteur du mont Everest. Le membre du Club des aventuriers et athlète ambassadeur de la Fondation Sur la pointe des pieds partira du parc Thériault à Bolton-Est en Estrie. Pour atteindre son objectif, l'ex-compétiteur de BMX de niveau mondial parcourra 4 fois un circuit en forme de 8 de 255 km avec un dénivelé positif de 2530 m. Il se donne 48 heures pour réaliser son défi. En marge de cet événement, il aimerait amasser une somme de 10 000 $ en faisant appel au public. Cet argent permettrait à des jeunes atteints de cancer de participer à une expédition d'aventure thérapeutique avec la Fondation Sur la pointe des pieds. Je le fais pour expérimenter le dépassement de soi, car c'est une expérience très enrichissante sur tous les aspects de la vie, autant physique que mentale, et j'aime faire du vélo. Je le fais surtout pour que les jeunes atteints du cancer soient inspirés à surmonter ce qui paraît impossible. À chacun son Everest, mentionne le cycliste par voie de communiqué. Il s'agit du deuxième défi du genre pour Simon Dravigné. En 2022, il était parti de Chicoutimi vers Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, dans le but de parcourir 700 km en 24 heures. Il avait alors amassé plus de 14 000 $, ce qui dépassait largement son objectif initial. Au moment d'écrire ces lignes, l'athlète a amassé près de 5 500 $ pour son défi en Estrie. C'était une ascension de 10 000 mètres à vélo pour les jeunes atteints de cancer à chacun son Everest, un texte de Marianne Gay paru le 4 juillet 2024 dans le quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean.